Vous écoutez la radio pour la paix internationale.
You're listening to Radio for Peace International.
Escuchas la radio por la paz internacional.
Sie hören Radio für internationalen Frieden.
Ascolti la radio per la pace internazionale.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de RFPI. Nous partons en Tchéquie, la Tchéquie qui assure la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne jusqu'en décembre. 7 mois après le début de l'agression russe, nous avons voulu savoir quels étaient les enjeux pour la Tchéquie et le peuple tchèque. Je ne vous cache pas que je suis traversé par une émotion particulière car pour répondre à mes questions, j'accueille Anna Kubista qui est journaliste au sein de Radio Prague et Radio Prague. Dans le monde de la radio internationale, c'est une institution. Kubista, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste au sein de la rédaction en français de Radio Prague et vous suivez de près l'ensemble de l'actualité tchèque dans toutes ses dimensions. Pouvez-vous nous présenter Radio Prague ?
Alors, Radio Prague, il faut préciser, même aujourd'hui, c'est Radio Prague International, mais c'est assez récent. Donc, si vous ne saviez pas, en fait, Radio Prague, c'est né dans les années 30, en 1936. Plus précisément, et en fait, c'est né un peu comme une initiative à l'origine du gouvernement tchécoslovaque pour en fait promouvoir la Tchécoslovaquie à l'étranger, hein, dans différentes langues, promouvoir la Tchécoslovaquie en tant que démocratie, voilà, une république démocrate au sein d'une Europe centrale où on va dire que les démocraties n'étaient pas très présentes, voilà, donc c'était parce que c'était la Tchécoslovaquie une démocratie sur le modèle anglais ou français. Donc ça, c'était pour la naissance de Radio Prague et des émissions internationales de la radio tchèque. Et évidemment, sous l'occupation allemande nazie, ça a été interdit. Ça a recommencé un petit peu après la guerre. Et puis, évidemment, avec l'arrivée au pouvoir du Parti communiste en 1948, c'est devenu un outil de propagande. Il y a eu des moments d'éclaircie. J'essaie de le faire court, hein, mais il y a eu des moments d'éclaircie, notamment en 1968. Au moment du printemps de Prague, et puis évidemment avec la normalisation dans les années 70, c'est redevenu un outil de propagande, et puis en fait le grand changement, ça a été après 89, avec en fait le fait que c'est redevenu en fait une radio publique, on va dire, avec toujours une mission, voilà, de parler de la Tchéquie dans différentes langues pour les publics concernés, mais évidemment dénué de toute propagande, comme ça a été le cas pendant les 40 années précédentes.
Et un recentrage sur Internet, la diffusion.
Alors, il se trouve que, voilà, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, Radio Prague, qui est devenue aujourd'hui Radio Prague International, a été très longtemps, évidemment, sur ondes courtes. C'était évidemment la vocation de ces radios, de ces émissions internationales. Et il se trouve que la crise de 2008, la crise financière a représenté un bouleversement énorme, hein, avec voilà, des budgets rabotés, etc. Et en fait, on a été obligé de couper, enfin d'arrêter les émissions en ondes courtes, parce que en fait, les émetteurs, tout ça, ça coûtait beaucoup trop cher. Et donc, on est exclusivement aujourd'hui sur Internet. Je crois qu'il y a aussi des émissions via satellite, mais bon, je pense que c'est minime par rapport au nombre de gens qui nous écoutent online sur Internet. Puis maintenant, évidemment, on fait des podcasts, voilà. Et il faut préciser, si, ça y est, je me souviens, il faut préciser que Radio Prague a été la première en fait station de la radio tchèque à avoir un site Internet au début des années 2000. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'on a été un peu à la pointe à l'époque. Alors évidemment tout le monde a des sites internet aujourd'hui et toutes les différentes stations de la radio tchèque en ont, mais on a été les premiers parce que justement c'était d'une certaine manière aussi fidèle à sa vocation de parler, en tout cas d'essayer de parler au plus grand nombre dans différentes langues. Et Internet, pour ça, c'est vrai que c'était un outil à l'époque merveilleux, surtout à ses débuts, pour faire en fait, voilà, pour pouvoir accomplir cette mission. Voilà.
Alors justement, parler au plus grand nombre, là ça prend tout son sens avec la crise russe et l'agression russe contre l'Ukraine. Quel est le rôle de Radio Prague actuellement ?
Alors déjà évidemment, parler de ce que fait la République tchèque en faveur de l'Ukraine, hein, donc c'est-à-dire à la fois les initiatives, enfin l'action gouvernementale, ça c'est sûr, mais enfin on rapporte ces actions évidemment de manière journalistique, hein, c'est pas, on n'est pas non plus comment dire, la voix de son maître, voilà, pour préciser, donc de manière objective et neutre, et puis aussi de d'évoquer même les initiatives individuelles, hein, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement qui est engagé, hein, il y a aussi évidemment les municipalités, etc. Bon, ça c'est toujours le côté institutionnel, mais il y a aussi toutes les ONG, et puis tout simplement en fait les gens, les particuliers qui sont en tout cas beaucoup mobilisés aussi. Et aussi, alors ça c'est le deuxième pan, ça c'est plus la version radio. Radio Prague International a lancé immédiatement après le début de la guerre en Ukraine, après l'agression russe de l'Ukraine, un podcast en ukrainien. Également une petite émission en ukrainien qui est diffusée, alors je pourrais pas vous dire comme ça de tête sur quelles ondes, et puis de toutes les façons c'est pas intéressant pour vos auditeurs puisque c'est en FM local ici en Tchéquie, mais sur une des stations de la radio publique tchèque, pour donner des infos à la fois pratiques ou quoi, enfin voilà, ce dont pourraient avoir besoin les réfugiés ukrainiens ici en Tchéquie.
Donc une grande diversité de supports et de contenus. Et vous nous avez parlé des initiatives des Tchèques individuellement. Mm-hmm. Que ressent le peuple tchèque à ce moment de l'invasion là?
C'est compliqué hein, parce que je peux pas parler pour tous les Tchèques évidemment. Moi je pense qu'il y a une énorme solidarité, en tout cas un vrai élan immédiatement évidemment après l'agression russe, parce que comme vous le savez sans doute et comme peut-être beaucoup de vos éditeurs le savent, les Tchèques sont évidemment ont un passé compliqué avec la Russie, hein, puisque les troupes soviétiques à l'époque, c'était pas que les Russes, mais enfin c'était quand même, les décisions étaient prises à Moscou. Les troupes soviétiques ont envahi la Tchécoslovaquie en 1968 pour écraser le printemps de Prague. Donc l'analogie très claire avec ce qui se passe aujourd'hui et les désirs de démocratie et d'ouverture de l'Ukraine correspondent tout à fait à ce qu'ont vécu les Tchèques et les Slovaques pour le coup en 1968.
Ouais, ça résonne vraiment dans le cœur des Tchèques.
Totalement. Les chars qui envahissent. C'est des images que les Tchèques n'auraient pas imaginé revoir et si près de leurs frontières. Alors on n'est pas frontaliers comme les Slovaques et il se trouve que les Tchèques et les Slovaques sont séparés et sont deux pays différents aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est dans la tête des Tchèques, je pense que symboliquement c'est pareil. Donc il y a vraiment eu un gros élan de solidarité à ce niveau-là d'empathie. Hein. Enfin, je précise quand même qu'il y avait plus de 70 000 personnes qui sont rassemblées quelques jours après l'invasion sur la place Venceslas à Prague et dans d'autres villes du pays en soutien à l'Ukraine. Et alors évidemment, l'autre pendant de ça, c'est qu'il y a aussi, avec le temps qui passe, aussi une forme de ressentiment et de rancœur et de lassitude aussi à cause de la crise énergétique et qu'il y a des causes évidemment sociales qui ressortent. Et pour compenser un petit peu, enfin c'est ça qui est assez contrebalancer ce côté totalement positif et évidemment admirable de la réaction des Tchèques juste après l'invasion. Récemment, il y a quand même eu une manifestation qui a aussi rassemblé pour le coup 70 000 personnes à Prague, mais qui par contre était contre l'action gouvernementale, avec des gens qui se baladaient avec des slogans trop russes. Je dois dire que c'était un peu décevant de voir autant de monde. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui se rassemblerait comme ça.
Vous diriez qu'il commence à y avoir une scission dans le peuple tchèque un peu? Des oppositions,
alors,
des tensions?
C'est difficile, je pense, de le comptabiliser hein, en termes de chiffres. C'est difficile à dire parce que là, je vous ai donné des chiffres de manifestants, mais alors, ce que pensent spécifiquement les gens de manière individuelle, c'est dur à dire. Je pense que, clairement, le fait que la crise énergétique soit là et qu'il y ait cette inflation quand même qui est hyper importante en Tchéquie. Hein. Je crois qu'on est à 17,2% là. On était à 17,5 il y a un mois, mais bon, ça n'a pas beaucoup baissé, quoi. C'est difficile hein, pour plein de Tchèques qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et l'option facile, mais je pense que vous voyez ça un peu partout. Hein. On peut voir ça même aussi, je pense, en France, de porter ses reproches et ses revendications contre le gouvernement et se dire qu'en fait, tout ça, c'est la faute des Ukrainiens, alors que c'est pas le cas, quoi, évidemment.
Où en êtes-vous en République tchèque pour affronter l'hiver?
peux vous dire que les prix, évidemment, du gaz dont la Tchéquie est extrêmement dépendante, hein, je crois qu'elle est dépendante à peu près à 90% du gaz russe via l'Allemagne, hein, je crois que c'est pas direct. Les prix ont flambé, hein. Enfin, ça a été multiplié par 3, hein, je pense, les factures, enfin, ou les acomptes, en fait, parce que, évidemment, c'est des acomptes. Au niveau de l'électricité, je sais plus exactement, mais enfin, en tout cas, c'est difficile. Donc, il y a des aides, hein, qui ont été décidées récemment par le gouvernement tchèque. Est-ce que, la question, c'est de savoir, est-ce que ça va vraiment compenser, c'est difficile à dire. Ah, et aussi, le gouvernement tchèque a décidé, là, à partir du mois de novembre, de plafonner, les prix du gaz et de l'électricité, mais disons que oui, tous les Tchèques, je pense, s'annoncent un hiver assez difficile. Et en effet, un peu comme partout ailleurs aussi en Europe, il y a des initiatives pour appeler les gens à chauffer moins, voilà, à mettre leur thermostat à 19 quand il commencera à faire froid. Et il commence déjà à faire froid pour le coup. Je peux vous le dire parce que j'ai 19 degrés hier chez moi et je me suis déjà dit que ça allait être difficile de tenir comme ça quelques temps. Mais enfin bon, si il y a que ça à faire comme sacrifice, c'est quand même pas grand chose. Clairement, c'est la Tchéquie, je pense, fera partie des pays les plus touchés justement aussi à cause de cette dépendance au gaz russe.
Est-ce que sur ce plan, du coup, lorsqu'on parle énergie, on parle souvent de solidarité européenne. Est-ce que les Tchèques, est-ce qu'ils trouvent qu'il y a assez de solidarité?
Ah, c'est difficile à dire parce que de nouveau, c'est difficile de parler pour tous les Tchèques, mais je pense que faut aussi distinguer quelle démocratie occidentale, c'est-à-dire que comme les Tchèques sont très connus pour être quand même, je pense en grande majorité plutôt pro-OTAN, ce qui n'est pas le cas en France, par exemple, plus atlantiste, etc. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui, à juste titre, pour le coup. Donc, par exemple, je veux dire, l'action américaine et britannique, qui pour le coup sont des grands pourvoyeurs d'aide, notamment les Américains, évidemment, puisque ce sont les plus gros pourvoyeurs d'aide militaire, pour le coup, aux Ukrainiens. Je veux dire, l'action américaine et anglo-saxonne, enfin britannique, est vraiment bien vue, évidemment, du côté tchèque, qui, je veux dire, pour le petit pays qu'il est, a quand même, je crois, délivré plus en pourcentage global d'armement que la France quand même. Donc c'est assez édifiant, je dois dire. Et puis les hésitations un petit peu d'Emmanuel Macron à dire les choses, en tout cas les premiers mois, vouloir toujours dialoguer avec. Oui, les hésitations d'Emmanuel Macron à nommer les choses, à un peu tergiverser, à vouloir toujours dialoguer avec la Russie, ça a été relativement mal vu ici, où il y a quand même ces souvenirs de 1938 et des accords de Munich à vouloir discuter avec Hitler. Le principe ici, c'est qu'on ne discute pas justement avec les dictateurs. Et alors peut-être que le discours justement d'Emmanuel Macron mardi à New York, dans le cadre de son discours aux Nations Unies, va peut-être changer la donne. Mais en tout cas, il y avait un peu cette appréhension-là, on va dire, cette manière de voir, par exemple, pour ce que je connais, hein, la France, comme un peu trop hésitante, je pense, sur son soutien à l'Ukraine.
La Russie subit des revers militaires actuellement, essentiellement dans la région de Kharkiv. Et ce matin, il y a Vladimir Poutine qui a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes. De quoi ont peur les Tchèques par rapport à ça?
De quoi est-ce qu'ils ont peur?
Oui.
C'était ça la question. Ok. Parce que j'entendais pas bien. J'ai pas trop vu pour l'instant de réaction, particulière. Je sais juste que, en tout cas, au niveau gouvernemental, hein, au niveau des autorités, ces histoires de référendum dans les territoires séparatistes a été évidemment condamnée à la fois par le Premier ministre, par le ministre des Affaires étrangères, qui ont dit que évidemment la Tchéquie ne reconnaîtrait jamais. Ce qui est en fait une annexion, hein, finalement, toute annexion à la Russie.
Vous nous avez parlé de la solidarité du peuple ukrainien. Il y a 300 000 déplacés qui sont arrivés en Tchéquie. Comment se passe la cohabitation? Je crois qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont retrouvé un emploi.
Oui, alors je crois que même c'est à peu près 430 000 visas spéciaux qui ont été délivrés, hein, depuis l'arrivée en fait des réfugiés ukrainiens En Tchéquie, il faut savoir que déjà, à la base, hein, la Tchéquie, c'est un pays où il y a beaucoup de ressortissants ukrainiens qui vivent et qui travaillent. Donc, c'était presque logique que beaucoup de réfugiés affluent vers ce pays, même s'il n'est pas frontalier, mais enfin, en tout cas, via la Slovaquie. Donc, souvent, c'est des solidarités aussi familiales. Hein, donc, c'est des femmes qui sont venues parce qu'elles avaient des connaissances ou un mari qui travaille ici, etc. Pour le coup, il y a en effet des personnes qui sont rentrées quand même. Donc en effet, vous parliez d'à peu près 300 000 réfugiés. Il y a, actuellement, je pense que ça correspond assez bien puisqu'il y a des gens qui sont revenus. Comme je disais, c'est essentiellement des femmes avec des enfants. La plupart des réfugiés ukrainiens, ukrainiennes qui ont retrouvé un emploi, c'est grosso modo 80% dans des emplois non qualifiés parce que évidemment il y a le problème de la barrière de la langue pour trouver justement des emplois qualifiés ou parfois pour se faire reconnaître des diplômes. Donc malheureusement, comme c'est le cas même en France, hein, on se retrouve avec des gens qui sont totalement surqualifiés pour l'emploi qu'ils font. Mais enfin, en attendant, c'est mieux que rien que d'avoir un travail plutôt que de ne pas en avoir. Et puis, il faut aussi préciser pour le coup que c'est pas uniquement des adultes, hein, parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont arrivés avec ces mères qui fuyaient, enfin ces femmes qui fuyaient l'Ukraine. Et actuellement, il y a à peu près, je crois, 60 000 enfants ukrainiens qui sont scolarisés en Tchéquie. Alors, soit qui sont intégrés dans des classes tchèques, soit qui sont dans des classes juste quand il y a la possibilité de le faire, juste entre ukrainiens pour plus tard justement les intégrer dans des classes tchèques, quoi. Voilà.
Merci Anna Kubista d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.